France Culture.
Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Quand on peut bénéficier d'un moyen de locomotion souterraine, quelle chance, quel bonheur, quelle aventure. On peut se régaler de la vision des longs couloirs blancs. On peut frissonner à l'idée de passer, s'il s'agit du métropolitain parisien, de passer sous la Seine sans risquer sa vie. On peut par ailleurs se poser des questions essentielles, qui paraissent très simples aux Parisiens de toujours, mais qui peuvent plonger le visiteur néophyte dans la perplexité. Ainsi, comment va-t-on à Auteuil ? Les écrivains, sinon de tout temps, cela ne signifierait rien historiquement parlant, mais du moins depuis la moitié du XIXe siècle, et encore plus au début du XXe, à l'apparition du métro à Paris, les écrivains donc se sont plu ou amusés à décrire rails, trains, métro, gares, passagers dans leurs romans et écrits divers. En voici la preuve, cet épisode d'une série proposée dans l'émission Heures de culture française, Mélange, le 3 avril 1959, sur France 3 National.
Notre série Le rail dans les lettres françaises se poursuit grâce à la collaboration de M. Aimé Dupuis pour le texte et grâce à Christian Delmas et Jean Daguerre pour les lectures d'illustrations. Cet exposé s'intitule « Du métro aux grands express internationaux ».
Une revue littéraire du rail en France ne saurait oublier les témoignages des écrivains auxquels l'ouverture du Métropolitain à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 allait fournir des images et impressions très parisiennes. Ainsi, tout au début de ces hommes de bonne volonté, à la date de 1908 et du 6 octobre, Jules Romain signale, entre autres faits notoires du moment dans la capitale, et en même temps que les premiers exploits des hommes volants, le bouleversement des voies et des quartiers par l'établissement du réseau souterrain.
L'on entendait tout le monde se plaindre que Paris fût odieusement encombré. Les chantiers du métro, qui se dressaient un peu partout comme des forteresses de terre glaise et de planches, armées d'une artillerie de grues, achevaient d'étrangler les rues, de bloquer les carrefours. Sans omettre que ces forages de tunnels minaient le sol dans tous les sens et menaçaient Paris d'effondrement, eh bien, quelques mois ou quelques semaines plus tôt, il était encore possible de comprendre qu'on se donnât tant de mal et que l'on fit courir aux gens tant de dangers pour creuser ces taupinières du métropolitain. Mais franchement, le 6 octobre, dans cet automne qui faisait pousser l'aviation comme un fruit miraculeux, c'était à se demander s'il valait encore la peine d'engouffrer dans la souterraine entreprise tant de millions, alors qu'il était évident qu'en 1918, au plus tard, une bonne moitié de la circulation dans les rues de Paris se ferait en aéroplane, à des 15 ou 20 mètres de hauteur.
En dépit de ces pronostics, du reste aventureux, et des critiques adressées au mode nouveau de circulation, Paris a bien vite adopté le métro, dont l'emploi incessant et quasi inconscient est entré totalement dans la vie de ses habitants. Un quart de siècle plus tard, le 7 octobre 1908, le dernier volume des Hommes de bonne volonté s'ouvre lui aussi sur une journée de Paris allant au travail avec ses divers moyens de transport, notamment ses tramways et son métro.
Malgré toute l'habitude qu'il peut avoir, le Parisien ne cesse de penser à la bouche de métro qui s'ouvrira tout à l'heure à 50 mètres de l'arrêt du tram. À ces 50 mètres qu'il lui faudra franchir plus vite que d'autres. À l'escalier qu'il faudra descendre. À la queue du guichet. À la nouvelle dégringolade de marche. À la fermeture automatique, pourvu qu'il ne voit pas la voiture de tête entrer et le portillon se rabattre quand il ne lui restera plus que 5 marches à descendre.
Pour le provincial, à sa première visite à Paris, c'est toujours une surprise lorsqu'il débarque de la grande gare Terminus que de découvrir et d'affronter le métro, même s'il s'agit d'un garçon décidé et crâneur, comme le jeune héros d'Hervé Bazin dans « Vipère au point », qui reconnaît volontiers en cet instant son embarras.
Et d'abord, comment va-t-on à Auteuil ? Par le métro, évidemment, ne serait-ce que pour découvrir ce curieux moyen de locomotion souterraine. Mais par quelle ligne ? Je me renseigne, j'erre un peu dans un dédale de couloirs blancs comme une crèmerie, je me renseigne encore. Le poinçonneur de billets penche sur mon embarras une sollicitude qui empeste l'ail. Tu prends la direction Étoile, tu changes à Trocadéro, tu reprends la direction Porte d'Auteuil, tu descends à Michel-Ange-Auteuil, mais pas à Michel-Ange-Molitor, fais attention. Ce tutoiement est déplacé. Alors je lâche un « Merci, mon brave », tellement juste de ton que l'employé en reste médusé, tandis que je monte dans le premier wagon de la rame qui vient de s'avancer tout exprès pour moi. La fermeture automatique me surprend et coince un pan de ma pèlerine. Comme j'ignore le maniement de la fermeture, j'attends dignement que quelqu'un monte pour me libérer.
Il est peu banal de voir Blaise Cendrars terminer dans Bourlinguer l'évocation somptueuse des souvenirs de ses voyages autour du monde par le tableau, infiniment plus neutre de couleurs, d'un quai de métro parisien. Toutefois, cette page de Bourlinguer, elle non plus, ne manque pas d'intérêt ni d'humour. Cendrars, en effet, nous y montre, à la station Trocadéro, une fort pittoresque employée.
À côté, dans un angle de la barrière, derrière le portillon automatique, cette lourde auvergnate, moustachue, maflue, un mégot de crayon encore au coin de la bouche, la pince perforatrice distraite, l'esprit ailleurs, passant toutes les heures de son service en train de lire, et même aux heures de la plus grande affluence, cet employé du métro trouvait moyen de conserver un œil sur son roman dont elle barrait d'un coup de crayon ému les passages les plus pathétiques. « Vous n'avez pas l'air de vous en faire, madame, lui dis-je un jour. Que lisez-vous là ? » Elle releva sur moi ses yeux d'une couleur passée et qui revenait de je ne sais où et me répondit « Je ne sais pas, c'est un roman. Mais ne croyez pas, monsieur, je me fais beaucoup de mauvais sang pour ma petite sœur. Imaginez-vous que j'ai fait venir Josette du pays pour la caser au métro et que malgré mes relations, je n'arrive pas à lui faire avoir une station sous terre. Ici, on est bien, regardez, à 30 mètres de fond, à l'abri des courants d'air bien au chaud et tranquille, et personne ne me dérange dans ma lecture. Et dire que cette pauvre Josette est à Cambronne. Vous ne connaîtriez pas par hasard quelqu'un qui pourrait la faire muter ? »
Un peu ahuri par cette confidence, ce qui ne l'empêche pas d'être serviable, Blaise Cendrars se précipite à Cambronne. Il découvre en effet, au bout du quai, une jeune personne, calot sur l'oreille, dont un double courant d'air ascendant et descendant faisait tourner quasi automatiquement les pages du livre qu'elle tenait à la main. Elle aussi, la petite sœur, lisait des romans tout au long de ses heures de service machinal. Et si l'un de ses auteurs de romans ne put, en dépit de ses démarches, lui faire obtenir une de ses places de fond, très recherchée, paraît-il, il déclare qu'il s'employa dès lors, durant ses trop brefs séjours à Paris, à fournir de romans ces deux auvergnates, afin de les distraire.
On ne voyait plus que moi dans le métro.
Délicate et galante attention, qui pourtant ne vaudra pas nécessairement à Cendrars les compliments de la compagnie du métropolitain. Si beaucoup de petits provinciaux que leurs parents, au retour de l'exposition de 1900, faisaient rêver en leur décrivant ce train souterrain qui traverse Paris et passe sous la Seine, main jeune parisien, tel Marcel Proust, rêvait eux aussi, dans ces lieux mystérieux que sont les gares, mais en songeant que c'est de là que l'on part pour les pays non moins mystérieux, dont les villes au nom magique figurent sur les indicateurs internationaux. Il se peut d'ailleurs qu'ils soient fort déçus lorsque, ayant atteint l'âge d'homme, il leur arrivera d'expérimenter ces grandes randonnées hors de France. C'est ainsi qu'au sortir de Normale, le héros de la confession d'un enfant d'hier, Abel Hermant, nous confie, au moment où il va partir comme lecteur à la cour de Swab,
« Maintes fois j'avais rêvé de l'Orient Express, comme les enfants qui ont la vocation des voyages rêvent du poétique navire qui les emportera vers les lointains désirés. Je ne lui trouvais plus la même séduction lorsque je me vis errant seul avec mon cicérone, le comte de Badenberg, sur le quai morne, le long duquel étaient échoués les lourds sleepings à mine de wagons blindés. La case qui nous était réservée me parut inhabitable, et je ne pus me faire à l'idée que mon garde du corps et moi nous y dormirions l'un par-dessus l'autre. J'aurais donné tout ce que j'emportais d'argent de poche pour éviter le compagnonnage, et je tentais de corrompre les employés. Mais le train était complet jusqu'à Vienne. Alors tout le pittoresque du voyage, bien que nouveau pour moi, m'échappait. Je n'apercevais que l'exil.
Notre voyageur se montre d'humeur aussi morose que misogyne. Par contre, le héros de Jean Giraudoux, Simon le Pathétique, manifeste une bienveillance et une curiosité d'esprit fort sympathique tout au long d'un itinéraire de 2 journées qui le conduira, par le même Orient Express, jusqu'en Roumanie peut-être, en tout cas, dit-il, avec sa nonchalante fantaisie.
Jusqu'où l'on change de voiture. Or, c'était bien un bon train, on ne changeait qu'au Bosphore. C'était un train de nuit, après lequel les chiens aboyaient mais ne couraient pas. Une lune éclatante me permettait de surprendre au passage les stations où j'attendais enfants, les trains qui s'arrêtaient. La gare où 2 missionnaires m'avaient parlé du Canada, et un Italien y jouait du violon. Celle où la neige nous avait ensevelis, et l'on y collait des affiches d'abbazia. Des maisons arrêtées près des étangs, des poulains près des barrières attendaient modestement sur place l'aube que j'allais chercher en Orient même. Quand je sortis dans le couloir le lendemain, le rapide quittait Munich. Le conducteur, qui, à Commercy, était remonté en mangeant une madeleine, à Verdun, des dragées, sautait sur le marchepied la main pleine de réformes munichois qu'il devait avoir arrachées au macadam même de la gare.
Pour si précises et suggestives qu'elles soient, ces images, voire les pages précitées, que l'on pourrait appeler ferroviaires, n'offrent cependant qu'un intérêt accidentel et accessoire en des ouvrages auxquels elles fournissent surtout un épisode ou un décor. Tout autre est le rôle assigné au chemin de fer par l'auteur lorsque, comme dans La Modification, le récent roman de Michel Butor, le train est engagé réellement et comme un personnage dans l'action. Action qui n'est d'ailleurs, d'un bout à l'autre du livre et d'un bout à l'autre de la ligne, qu'un long soliloque, un colloque ininterrompu, de Paris gare de Lyon jusqu'à Roma Termini, entre le narrateur et soi-même. Mais soi-même, envisagé différemment selon que vous circulez sur la même ligne, connue par cœur dans ses moindres détails, et cependant variable selon l'heure, la saison, les circonstances. Sans compter, bien entendu, la spécialité du train, grand rapide ou simple express, la classe et même la place qu'aujourd'hui l'on a choisie, et encore le genre de vos compagnons de voyage.
Ce train, qui est parti comme il part tous les jours, à 8h10 de Paris-Lyon, qui comporte un wagon-restaurant, ce wagon-restaurant même que vous venez déjà d'utiliser et où vous retournerez déjeuner, mais non dîner, parce qu'à ce moment-là, c'en sera un autre, italien. Il s'arrêtera à Dijon et en repartira à 11h18. Il passera à Bourg à 13h02, quittera Aix-les-Bains à 14h04, s'arrêtera 23 minutes à Chambéry pour assurer une correspondance et au passage de la frontière, depuis 16h28 jusqu'à 17h18 pour les formalités. Il arrivera à Turin à 19h26, en repartira à 20h05, atteindra Pise à 1h15 et Rome à Termini, enfin, demain matin à 5h45, bien avant l'aube. Ce train presque inconnu pour vous, puisque d'habitude c'est toujours l'autre que vous prenez, le rapide numéro 7, le Rome Express à wagon-lit, qui est tellement plus rapide et dont l'horaire est tellement plus commode, partant au moment du dîner pour arriver au début de l'après-midi suivante.
Et sans doute, poursuit notre narrateur,
il est si beau d'arriver à l'aube, ainsi que le permet ce train, dans une autre saison. Mais puisque nous sommes actuellement en hiver, demain, à la gare transparente de Rome, il fera encore nuit noire.
si, chemin faisant, ces 21 heures de méditation ne favorisaient pas une profonde évolution de sentiments, une modification dramatique des intentions du départ Gare de Lyon à la décision enfin arrêtée lorsque ce voyageur descend à Rome terminus. Jusqu'ici, nous venons de parler des Français circulant par le train à l'étranger. Notons à présent quelques images empruntées à des récits mettant en scène des voyageurs étrangers rencontrés sur des lignes françaises ou internationales. À cette catégorie appartenait cette Madone des Sleeping que décrivait Maurice de Cobra en 1925. Lady Diana Wynham, fille unique du duc écossais d'Inverness, et qui n'en est plus à compter ses aventures sentimentales, engage un jour un jeune bourgeois français, promu à l'occasion prince Seliman, pour défendre ses intérêts.
Vous m'accompagnerez en voyage, car vous n'ignorez sans doute pas que j'ai totalisé des milliers de milles sur les voies ferrées du continent et usé les carpettes de la compagnie des wagons-lits. Un chroniqueur parisien m'a même surnommé la Madone des Sleepings. Sleepings avec un S, ce qui est un barbarisme anglais. À moins que vous n'ayez déjà annexé ce vocable d'outre-Manche. En vérité, j'ai pérégriné sur les grands réseaux européens. J'ai oublié mains billets doux entre les pages de l'ABC, de l'indicateur Chex ou du Farplan germanique.
L'illustre veuve de Richard Wagner, que l'excellent mémorialiste Ferdinand Bach rencontra un jour dans l'Orient Express, appartenait un peu, elle aussi, à cette tribu errante et usagère des trains de luxe, car elle ne recevait pas seulement, écrit vers 1880 Ferdinand Bach, dans sa villa Manfred à Bayreuth, où tant de Français étaient accueillis.
Elle donnait même des réceptions dans les trains extra-rapides, quand, par hasard, elle quittait son sanctuaire où elle veillait avec une si remarquable constance sur la gloire du maître. Une pareille bonne fortune m'échut lorsqu'il y a bien des années, je me trouvais dans le train Constantinople-Paris. C'était dans le trajet entre Munich et Strasbourg que je vis pénétrer dans le wagon-restaurant transformé en salon entre deux repas un véritable cortège. Sa solennité éveilla l'attention de tous les voyageurs. Certaines individualités portaient sur elles un tel prestige que, même dans l'anonymat d'un train, on est comme alerté par la présence d'un vent de gloire. Tel avait été le cas de Liszt et tel était celui de sa fille Cosima. Elle était vêtue de noir. Sa tête était couverte d'un de ces voiles de voyage que les dames de qualité portaient à l'époque fabuleuse des crinolines. Madame Richard Wagner était accompagnée d'une suite d'amis qui étaient l'ordinaire de sa cour. Elle se rendait à Paris. Invitée à m'asseoir auprès d'elle, une de ces longues conversations de chemin de fer s'engagea qui ne prennent fin qu'au passage d'une frontière.
Sur cette causerie de M. Aimé Dupuis s'achève notre émission Mélange.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 3 avril 1959. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. This train don't carry no gamblers, this train. This train. This train don't carry no gamblers, this train. This train. This train don't carry no gamblers, crap shooters and midnight ramblers. Lord, Lord. This train, this train, this train goes on to glory, this train, this train, this train goes on to glory, this train, this train, this train goes on to glory, no one could ride it but the pure and holy, Lord, 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 this train, this train. Now I put my foot on the golden ship, and the ship done left this show, and I'm going away to the angels, and I ain't coming back no more. This train don't pull no liars, this train. This train. This train don't pull no liars, this train. This train. This train don't pull no liars, no false pretenders and backbiters. Lord, Lord. Lord, Lord, this train. This train. This train goes on to glory, this train. This train. This train goes on to glory, this train. This train. This
this train goes on to glory, no one could ride it but the pure and holy.